Radio Monaco et Fight Heads présentent Jingle Fight.
Très bonne soirée les amis sur Radio Monaco bien sûr et en même temps la brasserie de Monaco. Nous sommes installés pour un Jingle Fight absolument exceptionnel à quelques jours de la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est le 1er décembre et nous, eh bien, on fait ça juste avant les amis. Et je vous demande d'applaudir, elle vient d'arriver, la princesse Stéphanie. Je vous donne un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Bonsoir Altesse, ça va bien?
Bien vous madame.
Ah oui, oui, ce soir, attention, il y a beaucoup de monde. Nous avons des sommités qui viennent de partout. On aura beaucoup de monde. On peut teaser maintenant, les amis? Savoir qui on a?
Ah bon? Bah oui, on le dit. C'est plus un secret maintenant.
On dit tout ça.
Alors évidemment, autour de la princesse Stéphanie, nous aurons Michel Sidibé, représentant, directeur de l'ONU SIDA.
Directeur exécutif.
Nous parlerons de ces derniers chiffres qui viennent de paraître en début de semaine. Des chiffres plutôt positif, on peut le dire, Hervé Esba, quand même.
Hein. Il y a de l'espoir, et
oui.
Tant mieux, et nous sommes sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour la prévention et pour les personnes
vivantes. Ça veut dire qu'il y a moins de nouvelles contaminations dans le monde, c'est
ça ? Il y a effectivement moins, mais il y en a quand même toujours 2,5 millions par an, ce qui n'est pas rien.
On attendra tout à l'heure à 18h le docteur Bruno Taillant. Yann-Éric est déjà là, Yann-Éric Lessens, directeur des urgences au CHPG.
Oui, merci, bonsoir Malheur.
Francis Cassassa, consul de Monaco, on l'aura tout à l'heure au téléphone en Afrique du Sud. Stéphane Bern, l'excellent Stéphane Bern, qui est en pleine progression.
Il a on pas est content de l'avoir au téléphone.
Exactement.
On l'a vu il y a quelques années sur le plateau, il n'a pas pu cette année.
Tano, humoriste marseillais de Monaco.
Chirurgien.
Chirurgien, voilà. Ton papa était chirurgien, c'est vrai, Tano.
Ouais,
hein,
c'est vrai, mon père. Ouais. Il a opéré plusieurs fois. Enfin, c'était le médecin un peu de la famille.
Bon, toi, tu es pour le mariage gay et tu habites dans le Marais, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Le mariage pour tous.
Le mariage pour tous, ouais. Bon, on n'est pas obligé de se marier en même temps, on fait ce qu'on veut. Après, Didier Rouault, qui est là d'ailleurs en mode.
Il est là, il est au téléphone. Bah, c'est l'occasion, Malheur, de parler peut-être de la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés ici.
Mais oui.
Cette journée du 26 novembre pour l'association Fight Heads. Alors, pour la première fois en principauté, cet événement, Test in the City. Attention, le titre a été choisi par la princesse Stéphanie. On vous rend hommage quand il y a un jeu de mots, on vous rend
comment
hommage.
Comment ça s'est passé, Stéphanie? Comment vous avez trouvé ça?
Bah, ça m'est venu comme ça.
Un soir, il y a eu une brume, l'orage.
On cherchait un nom et puis ça m'est venu. Je trouve ça assez drôle pour dédramatiser la situation, pas le faire un truc trop plombant, faire peur aux gens. Au contraire, pour ça qu'on a fait aussi avec Karine un visuel assez plein de couleurs pour pas que les gens aient peur de venir justement se faire dépister.
Test in the City, c'est quoi? C'est un test anonyme, gratuit et rapide et avec des résultats en 10 minutes.
Ouais.
C'est la première fois que l'on fait ça en principauté.
Ça me fait pas mal.
Oui, évidemment,
c'est quoi,
ça me fait pas mal. Juste une question à la princesse Stéphanie. C'est la première fois, est-ce que vous aviez quelques craintes, voire quelques réticences au début quand l'association et vous-même avez eu cette idée de test dans les rues?
Moi, j'ai jamais eu de crainte parce que dès que j'ai un projet, une idée, j'ai jamais de crainte, je vais au bout et je suis assez tenace. Donc, ça a mis un petit peu de temps. Mais après, finalement, on y est arrivé avec la volonté de tout le monde d'y arriver. Parce que j'avais vu ces tests rapides au sein d'une association dans une mairie, je pense, annexe à Tananarive, dans une toute petite pièce. Et les gens, on leur faisait les tests là de suite rapides. Alors j'ai dit, s'ils peuvent le faire à Madagascar dans des conditions comme ça, pourquoi pas nous? Et c'était plus difficile que je ne pensais, mais on y est arrivé, c'est le principal, quoi.
Karine Manglou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la chargée de communication de l'association. Cette journée et ce déploiement, évidemment, vous y avez largement participé. Vous êtes l'un des fers de lance. Est-ce qu'il y a un petit peu de pression?
Pas du tout.
Oui. Elle est un peu fatiguée, Karine.
Oui, c'est pour ça que je vous demande.
T'as fait la brinque, Karine, ou quoi?
Ouais,
je peux le dire, hein, t'as déjà fêté le... Ouais.
Non mais c'est un énorme travail de communication, c'est surtout ça.
Oui, c'est un gros travail pour tout le monde, hein, en communication mais aussi en préparation avec tous. Donc oui, ça fait un moment qu'on prépare ça et on espère que ça va très très bien se passer, quoi.
Elle a eu plus de travail cette année, nous avons eu tous plus de travail puisque nous allons piquer nous-mêmes. Nous allons dépister, donc nous avons fait une formation.
Tu vas piquer quelqu'un, toi?
Oui, Malheur.
Oui, comment s'est passée cette formation? Karine, vous y participez aussi?
Oui.
Tu vas piquer les gens, toi?
Exactement.
Oh là là.
Donc, tu peux venir.
Bah, justement, c'est sérieux.
Karine, vous pouvez peut-être dire un mot alors là-dessus, sur cette formation.
C'est la princesse
c'est
qui a voulu.
C'est mettre la main à la
porte. C'est la princesse qui a voulu qu'on se forme, donc on s'est formé.
Ça coule de source, quoi, en fait.
Ils font tout ce que je leur dis.
Non, ça coule de source. C'était une volonté. Je trouve que c'est bien que ça soit fait dans des associations. Donc, pour nous, c'était une évidence.
C'est normal que ça soit eux qui le fassent, puisque c'est justement pour ça qu'on veut qu'il y ait des gens formés qui ont l'habitude de côtoyer des personnes.
Une question de confiance aussi, peut-être?
Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut le dialogue avant et après ce test. Et je pense que, bon, dans le milieu médical, ils n'ont pas forcément le temps ni la formation. Et nous, ils ont la formation, ils ont l'habitude de répondre à certaines questions et d'une certaine manière, ils ont les bons mots. Donc c'est logique que ça soit eux qui piquent aussi les gens, quoi.
C'est complémentaire au, au réseau de dépistage.
Comment ça se passe ? Il y a un bus qui sera garé, place Sainte-Dévote, lundi.
Oui, il y aura un bus à l'effigie de notre campagne. Donc c'est un lieu mobile où Fighters Monaco pratiquera les tests sur la journée du lundi 26. Et nous sommes en partenariat avec le CHPG, c'est-à-dire le service des urgences, et le centre de dépistage anonyme et gratuit, qui bien entendu, le centre de dépistage dépiste toute l'année. Alors, et ce jour-là spécifiquement sur le test rapide.
Il y a aussi au CHPG, Eric, on va pouvoir aussi lundi, bien sûr, faire le test rapide, c'est ça ?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que à côté des zones de test où les gens vont venir spontanément, nous, on va proposer à partir des urgences la réalisation du test. En fait, quand je suis arrivé il y a 6 mois à peu près à Monaco, j'ai eu l'information comme quoi la princesse Stéphanie mettait en place cette action. Moi, j'avais eu à Paris, en fait, l'opportunité de participer à l'organisation et la réalisation de 2 enquêtes, un petit peu comme ça, sur des patients qui n'étaient pas préparés au test. Quand on vient, en fait, dans un lieu de dépistage, on y vient spontanément. Là, les gens qui viendront aux urgences, qui ne sont pas venus pour ça, se verront proposer le test. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'ils n'avaient pas fait la démarche, on va leur proposer ce test. Et ce n'est pas le test lui-même qui est intéressant, c'est l'idée, en fait, du dépistage. Et on va leur proposer ce type d'action avec le dépistage, s'ils le souhaitent.
Tout à fait. Tano, tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais te faire dépister.
Ouais, je comptais me faire dépister dans pas longtemps.
Bon, bah fais-le, t'en profites. Hein.
Mais je vais le faire. Par contre, je voulais dire un truc sur le ruban rouge.
Oui.
Je trouve pas ça terrible parce que moi j'ai raté plein d'opportunités avec des filles parce que je pensais que les gens qui avaient le ruban rouge c'était des gens qui avaient le sida.
Ah oui, non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est l'inverse. Hein. Bon, faudra lui dire.
C'est, hein. C'est pas l'inverse non plus, Malher. C'est un signe
de solidarité. Dis-moi, j'ai un ami qui m'a dit mais à Monaco, beaucoup de gens se connaissent. J'ai peur de passer pour quelqu'un qui saute un peu sur toutes les filles, qui a une vie dissolue en allant faire le test. Non, qu'est-ce que tu as envie de dire à ça ?
Je ne sais pas qui t'a dit ça, parce que souvent, les mecs, ils sont plutôt fiers d'avoir cette réputation-là.
Oui.
Donc, sérieusement...
C'est pas toi, de toute façon, ça aussi.
Ah non, il n'y a pas de danger.
Il est vrai que souvent, à Monaco, comme dans des villes, il y a des personnes qui ont peur d'être vues, parce qu'aller se faire dépister, c'est comme si tout de suite, ils étaient repérés comme quelqu'un qui avait pris des risques.
Alors, voilà.
Mais justement, l'intérêt de cette journée-là, c'est que tout le monde est invité à venir se faire dépister. Ça veut dire que là, nous ne parlons pas qu'aux personnes qui ont pris des risques, c'est tout le monde peut venir se faire dépister. Donc être vu sur la place Sainte-Dévote ou au service des urgences ou au centre de dépistage, particulièrement lundi, dira simplement que ce sont des personnes responsables et conscientes et qui viennent faire un test pour connaître leur statut sérologique.
Alors j'ai ouï dire que quelques personnalités monégasques pourront montrer l'exemple justement. Est-ce que vous nous confirmez ou pas ?
Oui, bien sûr, oui. On peut peut-être laisser parler ma présidente pour ça, par rapport à cette initiative-là du dépistage, de donner l'exemple et de se faire dépister.
Bah, je crois que c'est pas ça qui est le plus important, ça c'est leur choix et c'est très bien, tant mieux. Mais je pense pas que c'est ça qui est important, mais c'est les gens... partout dans Monaco ou des communes limitrophes qui doivent venir. Je ne pense pas que le fait que certaines personnalités monégasques vont le faire, que ça va les faire plus venir. C'est le choix de chacun. Et justement, que ces personnes-là le fassent, c'est très bien aussi. Ça prouve que ils ont le bon raisonnement. Mais voilà, je pense qu'on l'aurait fait même s'ils n'avaient pas décidé de le faire.
Alors, en parlant de montrer l'exemple, on a avec nous au téléphone Didier Rouault, le directeur de la maison de vie de Carpentras. Bonsoir Didier. Il est avec nous depuis quelques minutes. Didier, on parle d'exemple justement. Alors vous allez nous annoncer ce soir une initiative pour le moins spectaculaire, c'est-à-dire que la mairie de Carpentras a décidé, avec évidemment votre accord et votre collaboration, de déployer une bâche sur la mairie autour de ce 1er décembre, cette journée internationale de lutte contre le sida.
Oui, tout à fait. De façon complémentaire aux actions que mène Fighters à Monaco, on a souhaité que Carpentras se mobilise ou se remobilise à nouveau contre le sida à l'occasion du 1er décembre. Donc on a proposé à la mairie quelque chose de très symbolique et de très visible, c'est-à-dire le déploiement d'une bâche géante sur le fronton de la mairie de Carpentras avec un message tout simple, ensemble, agissons contre le sida. Parce que je pense que c'est encore important de se mobiliser sur la prévention, sur le dépistage et sur le soutien des personnes qui vivent avec le VIH.
Princesse Stéphanie, la municipalité de Carpentras ou Hervé Esbach vous a toujours soutenu pour le coup dans cette construction de la maison de vie et dans votre travail à l'association.
Oui,
hein.
Puisque initialement, c'est le maire avait proposé à la princesse donc cette mise à disposition du terrain qui a permis justement à la princesse de lancer cette initiative et cette originalité qu'est la maison de vie. Et depuis, effectivement, la mairie de Carpentras soutient les actions menées sur Carpentras par la princesse Stéphanie.
Merci beaucoup, Didier. Peut-être un mot de la période de Noël, en redire un mot.
Oui, les familles s'inscrivent. Là, on a déjà 6 familles d'inscrits et 8 enfants. Et puis les inscriptions sont encore possibles pour cette période de fête de fin d'année.
Merci beaucoup, Didier.
Ouais. Merci à vous. À bientôt.
Au revoir, Didier. Au revoir,
salut, Didier. Au revoir, au revoir. Eric, tu voulais ajouter un petit truc tout de suite. Tu as levé la main.
Oui, j'ai levé la main, comme à l'école.
Bravo.
Juste pour préciser, Anna disait tout à l'heure que le test se fait en 10 minutes. En réalité, c'est une petite minute. Donc, c'est vraiment très peu de votre temps.
Et
si vous souhaitez vous dépister, c'est vraiment très rapide. N'hésitez pas, venez. Le test, en plus, est très fiable.
Une petite piqûre sur le doigt.
Yann a amené pour toi, Malère, a amené un test, d'ailleurs,
vrai,
pour
oui.
te dépister à
mais
la fin de l'émission.
Mais vous êtes pas bien, mais t'as vu...
Mais ce sera confidentiel.
Mais tu te rends pas compte de la vie que j'ai menée.
Mais justement.
Mais c'est terrible.
Ben, ça serait bien que tu saches, justement.
Oui, justement. Mais on peut le faire quand l'émission sera définitivement finie. Que je puisse m'enfuir rapidement.
L'intérêt de se faire dépister.
Tu demanderas à Bruno Taillon, il me le fait régulièrement.
Très bien.
Alors que je n'ai plus du tout aucune activité.
Je sais.
L'intérêt de se faire dépister, c'est de savoir quel est son statut sérologique, de se protéger pour soi-même et protéger les autres si l'on ne connaît pas son statut sérologique, et en cas de découverte du virus, de pouvoir être pris en charge tout de suite et de bénéficier des traitements si nécessaire et d'éviter justement que la maladie progresse.
Si on a une prise de risque très récente, c'est pas la peine de venir. Non mais c'est
tout à fait, vous êtes
très récent.
C'est la première prise de risque qui est très récente.
Ça veut dire quoi le semaine.
On ne renseigne pas sur le mois précédent. Les 4 semaines précédentes, s'il y a une prise de risque, le test que l'on fera
rien
n'apparaîtra. Ne renseignera
pas.
Par contre, si on est habitué à prendre des prises de risque
pour toi,
tous les mois permanente, oui, il faut venir.
Donc je peux y aller là. Mais là c'est plus le doigt qui vont vous allez me garder, non. Bon les amis, décidément lundi va se passer beaucoup de choses, place Sainte-Dévote, parce qu'il y a aussi les tests de dépistage, mais aussi l'opération courte pointe,
oui.
Les amis.
Et avec nous, Muriel et Agnès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes affiliés à l'association, évidemment vous avez largement contribué à cette opération des courtes pointes, donc qui sont un travail de toile cousue entre elles, et chaque toile rend hommage, hein, c'est cela, à une personne,
décédée,
disparue. C'est la deuxième année, hein,
deuxième année que
vous faites ces courtes pointes. Racontez-nous un petit peu déjà ce travail, comment ça s'est passé entre vous, ce travail d'équipe.
Avant tout, ça oui, c'est important, c'est un travail d'équipe. Alors au départ c'est un travail individuel puisque chacun travaille sur son propre panneau, mais ça devient tout de suite un travail d'équipe parce qu'on n'est pas habitué à peindre, on n'est pas habitué à dessiner, et on se prête la main automatiquement, ça vient très naturellement. Et après le gros travail d'équipe commence parce qu'il y en a deux qui coupent, deux qui repassent, deux qui brodent, deux qui bâtissent, et moi je suis derrière ma machine. Alors là c'est moi qui pique, c'est pas Hervé, c'est moi. Mais bon, il y avait du sang aussi parce que cette année on a beaucoup saigné.
Oui. Mais c'est vrai que
on a beaucoup souffert.
On a sous les yeux, après c'est Stéphanie Hervé Esbach, donc des exemplaires de ces travaux, effectivement, mais ça met quand même quelques temps. Est-ce que déjà les personnes auxquelles vous rendez hommage, vous les connaissez, c'était des personnes proches, comment ça se passe?
Oui, des proches, des très proches, quelquefois de la famille, donc c'est souvent très émouvant.
Donc leur nom, des dates en général,
vraie date. Très important.
Date de naissance,
voilà.
Date de décès.
Et des petits mots, mais aussi des dessins.
Et des histoires.
Et des histoires.
Raconter l'histoire de la personne d'un chien de chasse, la vie de la personne.
On voit que les dessins ne sont pas tristes du tout, même si on rend hommage à une personne décédée, les ateliers ne sont pas du tout tristes. C'est vraiment des moments de vie intense où il y a des choses qui se disent. Il y a vraiment une solidarité. Hein, Muriel l'a évoqué, moi je voudrais juste évoquer entre autres une personne qui est à l'association qui est malvoyante. Elle a été aidée pour faire la courte pointe.
Tout à fait.
La solidarité s'est vue aussi, puisqu'au départ, cette année, nous avons travaillé différemment. Et il y a une équipe constituée qui a porté ce projet, vraiment. Muriel et Agnès font partie de cette équipe, mais il y a d'autres personnes de l'association qui étaient là pour justement aider ceux qui étaient un petit peu timides au départ, qui disaient « moi, je ne sais pas dessiner »,
et
les encourager.
Voilà.
Agnès,
mais c'est vrai qu'il y a certains talents qui se révèlent, du coup.
Oui, il y a de très belles choses. Il y a de très, très belles choses,
Cette opération des courtes pointes, Princesse Stéphanie, évidemment, ça vous touche particulièrement, un petit peu comme nous tous, évidemment, ce soir.
Oui, ça me touche et en même temps, voilà, c'est la manière dont tout ça a commencé il y a longtemps déjà. Et c'est ça qui me... C'est pas que ça me touche, ça me révolte, quoi. Et que ça existe encore de nos jours. Qu'on soit obligé de déployer ces courtes pointes, de faire passer ce processus de deuil pour en fait leur donner une sépulture. Parce que les personnes qui décèdent des suites du VIH n'ont même pas de respect ni de dignité dans leur mort. Et ça, c'est quelque chose qui existe encore en 2013. Et pour moi, ça, c'est juste insupportable, insoutenable. Donc, c'est pour ça que les courtes pointes, ça me tient à cœur et que je me battrai toujours pour ça et pour que les choses changent, les lois changent là-dessus. C'est pas la peine. Il y a discrimination de leur vivant, elle est encore là. C'est un long combat et dur. Mais au moins que dans la mort, on respecte les familles, on respecte la personne qui est disparue. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ouais.
Et après leur déploiement à Monaco, ces courtes pointes rejoindront Atlanta, c'est
non.
cela?
Non, 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 on les garde.
Non, on veut les garder, c'est vrai.
Oui, on veut les. Il y en a une qui a rejoint Atlanta. C'est la. Alors au départ, la fondation a été créée à San Francisco.
Oui.
Puis après, elle est devenue tellement énorme.
Me faites pas dire le nom de la fondation en anglais parce que c'est une catastrophe.
Ed Memorial Quilt.
Voilà.
Mais
merci.
Je sais pas si Quilt, on dit Quilt ou Quilt. Bon. Bon, c'est courte pointe commémorative du SIDA en anglais.
Voilà.
Et donc ensuite, elle a été transportée à Atlanta parce qu'elle est énorme. Elle fait 54 tonnes aujourd'hui. 94 000 noms de personnes décédées du sida, 48 000 panneaux. Et chaque jour, un panneau est ajouté aux courtes pointes. Chaque jour. Donc c'est devenu une ampleur phénoménale. Voilà. Donc ça a été transporté à Atlanta. Et moi, j'ai été à Washington au mois de juillet. Mmh. Et je suis partie avec une courte pointe. Moi, j'ai quand même ces 12 kilos, donc j'en ai pris qu'une. Et je l'ai remise officiellement au nom de Fighted Monaco et la Principauté de Monaco. Donc dorénavant, sur tous les déploiements internationaux, il y aura la courte pointe Monaco. Yes.
Alors merci à vous.
Bravo. Bravo les filles.
Agnès, un mot là-dessus peut-être ?
Moi je voudrais dire que on a fait ça évidemment en grande partie pour nos êtres chers décédés, pour leur redonner une dignité. Et on est très fiers justement par rapport à eux d'avoir redonné le sourire à leurs âmes. Mais surtout, nous aussi, par rapport à nos actes manqués de l'époque, on n'a peut-être pas eu la possibilité d'avoir trouvé les mots qu'il fallait, d'avoir été présent pour l'enterrement. Et je sais que pour moi, ça a été un grand soulagement de faire ces peintures pour des êtres chers envers lesquels j'ai pas pu être auprès d'eux ou même à l'enterrement. Donc c'est pour eux, c'est pour nous, ça fait du bien à tout le monde.
Alors merci à vous, Muriel et Agnès.
Je voudrais juste rajouter une chose. Cette année, pour la première fois, on a fait un atelier portes ouvertes qui a été ouvert aux personnes extérieures à l'association. Oui. Et nous avons eu de nombreuses personnes qui sont venues, qui ont fait leurs panneaux. Et je voudrais juste dire, il y a une personne qui est venue, qui a peint son tableau. Puis on s'est assis dans un coin, on a commencé à discuter. Elle a vidé son sac. Elle m'a dit, ça fait 25 ans que je n'ai pas l'interlocuteur qu'il faut pour arriver à dire ces mots-là. Je n'avais pas la personne qu'il fallait. Elle était heureuse d'être à Fighted pour faire ce travail-là. Voilà, c'est tout.
Merci. Alors, merci à
Agnès
vous,
et Muriel et Agnès. Bravo, les et on peut dire bravo à Muriel et Agnès et à tous ceux qui ont fait un dessin et tous ceux qui ont contribué à ce travail-là.
On pense bien à eux.
Où ils ont beaucoup travaillé pour peindre, pour coudre. 800 heures, souffle
800 Muriel. Heures, oui, nous souffle Muriel. Allez, un mot avec Karine Manglo. Vous êtes toujours avec nous de l'opération.
Elle s'est pas endormie.
Restaurateur. Non, mais justement, un petit mot de restaurateur solidaire, cette opération à Monaco.
Alors, restaurateur solidaire, c'est une opération qui a été montée l'année dernière à l'initiative de la Galerie Saint-Marthe et lors d'une discussion entre la princesse et Madame Rachid. Donc, l'année dernière, les restaurateurs de Monaco se mobilisaient. Il y en a une quarantaine autour de la lutte contre le sida. Donc, soit en diffusant de l'information, soit en reversant de l'argent à l'association. Et justement, pour prolonger un peu ce travail de courte pointe, en mettant sur leur table des sets de table réalisés à partir des photos des courtes pointes réalisées. Et cette année, en fait, l'opération de l'année dernière a eu un grand, grand succès. Donc, cette année, il y a plus d'une soixantaine de restaurateurs. La princesse a souhaité qu'on élargisse un petit peu et qu'on aille au-delà des frontières de Monaco.
Le Soleil, Cap d'Ail, Banton, voilà. Carros, Cannes.
Carpentras aussi.
Carpentras.
Voilà. Carros. Donc on a Carros. Une. Ouais, Carros.
Carros, très bien.
Donc on a une soixantaine de.
On est pas à Paris, c'est des Carros. Ouais.
Soixantaine de restaurateurs.
Carros. C'est Tours. Ouais.
Mais je peux pas parler.
Mais si, ma chérie. Donc ils reversent de l'argent.
Continuez, Karine.
Oui, continue de t'occuper de nous.
T'occupe pas de lui.
Oui, donc.
En perdition.
Ils vont servir, par exemple, ils peuvent servir des cafés coquins, c'est-à-dire des cafés avec des préservatifs. Ouais. Et voilà. Donc cette opération commence le 26 aussi. Certains restaurateurs vont y participer une journée, d'autres une semaine, et d'autres ont décidé de participer tout le mois de décembre.
D'accord.
Merci, Karine.
Merci Karine
d'être venue nous voir.
Chargée de communication, les amis. Nous sommes en direct de la brasserie de Monaco avec toute l'équipe de Fighted. avec bien sûr la princesse Stéphanie, les amis. Ouais. Nous accueillons Zaza, la merveilleuse Zaza, exceptionnelle.
Salut,
ouais. Elle a des petites ailes dans le dos, elle va bientôt nous quitter, elle va se barrer. Tu vas quitter la région, c'est ça, Zaza?
Je m'envolais très 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 haut.
Alors,
c'est
qui...
un ange. Ça.
Je suis un ange.
Tu es un...
Ouais, il y aurait encore des gens qui en
mettraient. Oui, saute pas tout de suite. Je sais qu'il y a plein de toubibs ici, mais quand même. Bon, ma petite Zaza, on va parler des anges gardiens. Est-ce que tu peux nous expliquer? Non, on va avoir... Tu penses qu'on a Michel Sidibé qui est avec nous, là?
Je pense qu'on sait bien, parce que nous avons la chance, nous avons l'honneur d'avoir Michel Sidibé, qui est directeur exécutif de l'ONU SIDA. Et j'en profite pour le remercier, parce que je sais qu'il a un emploi du temps très, très, très chargé. Et il a accepté de répondre à l'invitation de la princesse et de participer un moment avec nous à l'émission. Donc,
il
merci,
est en direct
Michel.
Avec nous depuis Genève, c'est ça, Hervé?
Oui, il est à Genève. Bonjour, Michel.
Bonjour, Michel. Bonjour, patron.
Ma princesse, comment ça va?
Comment vous allez, mon directeur général?
Ça va très bien.
C'est mon boss, hein, si vous voulez, à l'ONU SIDA.
Ah ouais. Ouais, parce que Stéphanie est ambassadrice de bonne volonté à l'ONU SIDA. Pourquoi bonne volonté?
Mais je change de titre tout le temps. D'un coup, c'est représentante spéciale. Après, c'est ambassadrice de bonne volonté. Je sais pas. Ouais. Mais enfin, je suis toujours là.
C'est Michel qui peut nous expliquer.
Michel!
Moi, je pense qu'elle est plus qu'une ambassadrice de bonne volonté. Elle est une force qui nous aide à transformer. C'est une voix qui porte, une voix qui nous aide vraiment à combattre la discrimination, la stigmatisation. Et pour nous, ça, c'est plus important que le titre d'ambassadrice.
Merci, Michel.
Bon, Michel, oui, le nombre des infections est au plus bas depuis 10 ans. C'est une bonne nouvelle, non, Michel?
C'est une bonne nouvelle. Je pense que vraiment, on passe de cette période qui nous faisait penser qu'au désespoir à quelque chose aujourd'hui où on a l'impression, en définitive, que les efforts portent, parce qu'on a une réduction de 50% des nouvelles infections dans... plus de 25 pays et des pays comme l'Éthiopie où on pensait même pas qu'on aurait pu contrôler l'épidémie. On a une baisse de 90% de l'incidence de l'épidémie aujourd'hui.
Et certains pays d'ordinaire très touchés aussi, comme le Malawi, le Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, il y a une certaine réduction des chiffres, des infections au VIH. C'est dû à quoi, Michel Sidibé? À une certaine prévention, une prise en compte du virus?
Moi, je crois que c'est dû à plusieurs facteurs. D'abord, il y a le leadership et surtout le fait qu'on a brisé la conspiration du silence. On a amené les leaders à comprendre que passer de la rhétorique politique à des choix stratégiques et programmatiques qui peuvent permettre de mieux utiliser les ressources qui sont mises à la disposition pour produire des résultats. Je pense qu'il y a cette première chose. Deuxièmement, il y a bien sûr l'effort des personnes comme la princesse qui font le plaidoyer à travers le monde. Je sais qu'elle a visité l'Afrique du Sud. On parle aujourd'hui de l'Afrique du Sud, mais il y a quelques années, personne ne parlait même de la lutte contre le sida en Afrique du Sud. Mais la visite de la princesse, les voyages qu'elle fait sur le terrain, nous aident à porter justement ce combat-là et faire en sorte que les leaders politiques adhèrent à notre agenda. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a augmenté de pratiquement 75% le nombre de personnes qui ont eu accès au traitement. Donc, à moins de 2 ans. Et chaque fois qu'on augmente le traitement, eh bien, on réduit aussi l'infection.
Il y a aussi un élément important dans les données de l'ONU SIDA lundi que vous avez donné, Michel. C'est la réduction des enfants nés de mères séropositives. Et en plus, nous sommes contents puisque le Burundi fait partie de ce pays. Et nous travaillons avec une association au Burundi sur la PTME, justement. Enfin, la prévention de la transmission de la mère à l'enfant.
Vous savez que moi, je me suis battu depuis que j'ai pris la charge de l'ONU SIDA pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants qui naissent avec le SIDA. Avec 150 €, on peut arrêter la transmission de la mère à l'enfant. Lorsque cet enfant naît avec le SIDA, ça va nous coûter plus de 300 000 € seulement en coût de traitement. Mais aujourd'hui, on voit qu'en moins de 2 ans, on a réduit pratiquement 30% le nombre d'enfants qui sont nés avec le SIDA. Donc, encore une fois, je suis très content parce qu'on est sur la bonne direction et on peut éventuellement éliminer cette transmission-là avant 2015.
Et il nous reste malgré tout quand même beaucoup de travail, parce que quand on voit quand même les chiffres encore qui sont quand même importants, 2,5 millions, c'est encore énorme. Et donc il reste beaucoup de travail à toutes les associations, aux ambassadrices, aux présidentes d'associations et à l'ONU SIDA.
Oui, moi j'applaudis aussi l'effort entrepris par la princesse et toute l'équipe parce que la maison de vie est un exemple concret. Le SIDA, on ne gagnera que lorsqu'on sera capable de restaurer la dignité des gens, lorsqu'on sera capable de protéger les populations à risque et lorsqu'on sera capable faire vraiment prévaloir la justice sociale et redistribuer les opportunités pour tout le monde. Et je crois que un peu la maison de vie, c'est ça. On a quand même 7 millions de personnes qui attendent le médicament. Et ça, c'est important. Les violences contre les jeunes filles, c'est des choses que nous devons combattre avec beaucoup de vigueur.
Michel Sidibé, je voudrais juste terminer avec des mots que vous avez prononcés en début de semaine, les partager avec la princesse Stéphanie. Vous avez dit « nous passons du désespoir à l'espoir ». Ce sont des mots forts et importants et je suis sûre qu'ils résonnent en vous, princesse.
Oui.
Ben oui, forcément. Mais c'est très bien les chiffres, c'est très positif, c'est une forme d'espoir. Mais il ne faut pas pour autant oublier toutes les personnes qui vivent avec cette maladie maintenant, qui en est de moins en moins. C'est formidable, mais maintenant, les personnes vivant avec le VIH vivent de plus en plus vieux, dans de bonnes ou de mauvaises conditions. Et donc là, on a encore une autre problématique qui se pose à nous. Mais voilà, je veux juste... pas parce qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de moins de contamination, qu'on oublie ceux qui ont déjà été contaminés. Parce que c'est eux qui ont besoin de nous aussi, qui ont besoin de notre soutien, et qu'on se batte encore pour eux.
Et moi je dirais que ce sont des personnalités, des tempéraments comme ceux de la princesse ou de Michel Sidibé, qui nous permettent de continuer ce travail avec l'espoir et le dynamisme pour continuer à avancer et progresser sur ce chemin qui est long et difficile.
Michel ?
Merci beaucoup.
Merci Michel. Merci
Michel. C'était Michel Sidibé, directeur exécutif de
l'ONU SIDA.
Je crois qu'on peut l'applaudir, hein, c'est un sacré personnage. Merci Michel, au revoir. On va revenir
c'est
avec
pas
toi.
Un personnage, c'est un grand monsieur.
C'est un grand monsieur. Et en plus, il a nommé ambassadrice mondiale de l'ONU SIDA Aung San Suu Kyi. C'est une grande dame, hein, c'est vachement bien.
C'est une
bien,
grande dame, mais toutes les ambassadrices sont des grandes dames. Ils
exactement.
Ne prennent que des grandes dames.
Voilà, et on en a une devant nous. Zaza, s'il te plaît, Zaza.
Après les grandes dames, les petites dames des anges gardiens.
Il y a une petite dame avec des grandes ailes. Voilà. Bonjour Zaza. Alors attention, tu peux nous expliquer ce que c'est que les anges gardiens? Tu peux revenir dessus?
Alors brièvement, en fait, les anges gardiens sont des élèves dynamiques du lycée technique.
Oui,
et Zaza n'est plus une élève.
Non. D'ailleurs, il y a des élèves et des anciens élèves qui ne nous ont pas quittés et qui continuent à faire des actions avec nous. Ben, ces élèves, ils proposent tout simplement de la prévention dans tout ce qu'elle peut proposer pour répondre au mieux en fait aux jeunes. On s'est aperçu que les préventions que adultes ont proposées, elles fonctionnaient pas forcément, qu'on n'était pas tellement écoutés, et eux, peut-être qu'en proposant
en gros sur le terrain, Zaza, vous pointez dans les boîtes, dans les restos, dans les
alors,
bars.
Cette action-là, parce qu'il y en a plusieurs, mais cette action-là, effectivement, on va lutter contre les risques directs liés à la prise d'alcool. C'est-à-dire, on ne dit pas aux jeunes, ne buvez pas.
Parce mais comment que ça se passe concrètement?
Tu
t'approches à côté d'eux, tu leur dis, dis donc.
Voilà, on a des petits questionnaires.
Tu t'es vu quand t'as bu, non?
Ouais, non. On a des petits questionnaires pour engager un petit peu la conversation. Et voilà, on leur dit, voilà, tu as bu, ok. Tu vas essayer de rentrer en vie chez toi. Tu vas essayer de pas avoir de rapport.
Dis donc,
protégé.
Ça va pas être facile de parler avec quelqu'un un peu pété, non?
C'est rigolo.
Ouais, c'est pour ça que c'est intelligent de le faire par des jeunes, parce qu'un autre jeune va plus facilement parler et répondre aux questions quand c'est quelqu'un de son âge qui lui pose. Que si c'est toi ou moi ou policier, ça va être pareil.
Ah non, il appelle les flics tout de suite. Bah,
Malher répondra aussi plus facilement si c'est une jeune fille qui vient lui parler qu'une autre.
Alors voilà, mais ça n'arrive jamais.
Mais ce soir, ils sont présents pour la soirée à la brasserie. Les anges gardiens sont...
Voilà, ils sont là ce soir.
Ils sont gentils avec toi.
Dis donc.
Donc on distribue des préservatifs, on fait souffler les alcotests.
Oui. Donc prévention, l'alcool, mais le sida et les maladies.
Bah oui, c'est lié en fait. L'alcool et le sida peuvent être liés.
Surtout,
parce qu'on a bu, puis on peut avoir des rapports à risque, et puis on peut avoir aussi des rapports qu'on n'a pas forcément désirés.
Mais vous vous pointez à quelle heure? C'est minuit, 1h du mat?
Là, ça sera 1h. Des fois, on fait un peu plus tard. Là, on est là depuis 5h, donc on partira 1h du
mat. Et c'est quoi? Il y a le pourcentage? Il y a beaucoup de jeunes qui ont picolé?
Franchement, je crois. On va plutôt parler de ceux qui n'ont pas bu.
Bon.
C'est-à-dire, on peut les compter sur les deux doigts de la main. Les 10 doigts des mains. Combien de doigts on a dans les mains?
T'as essayé de faire ça à 3h du matin à Pigalle?
Non, on a juste essayé à 5h du matin à la Rascasse. Crois-moi, c'était déjà pas mal.
C'est Tano qui a répondu là. Tano, l'humoriste.
Moi, je me réveille.
Marseillais de Monaco, il est son spécial pour nous.
Marseillais à Pigalle, non?
Ouais, ouais.
J'habite pas loin, ouais. Non, j'habite dans le Marais, moi.
Il habite dans le Marais.
Est-ce que dans le Marais, tu t'as essayé, non?
Non, dans le Marais, bah, c'est un quartier 90% homosexuel. C'est plutôt calme. Même les SDF sont homosexuels dans le Marais. Des fois, sur leur carton, tu peux lire, s'il vous plaît, 1 € pour des UV. Mais dans le Marais, il y avait, je ne sais pas s'il y a toujours, il y avait une boutique qui, justement, donnait des informations sur le sida. Et il y avait la possibilité de faire le test de dépistage.
Il y en a deux, ouais.
Descend toujours. Ouais. Ouais. Alors moi je voulais rajouter, Zaza, on ne voit pas, et puis là il y a 2 autres jeunes filles,
Mélanie,
avec des ailes sur les épaules.
Émilie.
Elles sont équipées pour ce soir avec des bandoulières où il y a des balles, et surtout elles ont des préservatifs où il y a 2 logos, celui de Fighters Monaco et celui de la Croix-Rouge Monégasque, puisque nous sommes partenaires avec la Croix-Rouge Monégasque sur des actions de prévention, et en l'occurrence ces préservatifs.
Bon. Qu'est-ce qui veut parler la première là? Ouais.
Ça t'intéresse pas.
Si,
c'est vachement intéressant. C'est important à nos partenaires Fighted, la Croix-Rouge Monégasque, la Sûreté publique pour les éthylotests aussi.
Exactement.
C'est important de les citer, quoi.
Et je voulais faire parler soit Mélanie ou Émilie. Qui c'est qui commence? C'est Émilie. Donc toi ce soir, tu vas sortir, tu vas te protéger.
Oui.
Non, elle est tous les jours, elle se promène avec ses ailes dans le dos. Mais...
C'est pas gênant, les ailes bourrées, quand on est bourré?
Ah, je sais pas, j'ai jamais essayé.
Non, non, elle boit pas, arrête.
Non, justement, les anges gardiens ne boivent pas, c'est les autres.
J'avais pas suivi.
Émilie, qu'est-ce que tu veux savoir?
Oui, moi j'ai une question. Donc, si une personne séropositive prend bien son traitement, est-ce qu'elle peut quand même déclarer la maladie?
Pour donner quand même quelques éléments de réponse à cette jeune femme, alors c'est vrai que prendre le traitement, déjà, ça permet effectivement de contrôler la maladie, mais malheureusement... Les malades peuvent développer des virus qui deviennent résistants au traitement et malgré tout développer la maladie. C'est pour ça que la recherche continue, qui a également besoin de soutien pour la recherche contre cette maladie, pour développer de nouveaux traitements. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont particulièrement efficaces, de plus en plus efficaces. Comme le disait la princesse, les patients vivent de plus en plus longtemps dans de bonnes conditions, mais je crois qu'il faut anticiper l'avenir et continuer effectivement à faire des efforts pour la recherche sur cette maladie.
Voilà Émilie. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Tu as une autre question?
Mais je voulais juste dire à tous les gens qui nous écoutent que mettre un préservatif, c'est pas honteux du tout, au contraire, c'est une marque de respect. Et si le mec il veut pas mettre le préservatif,
Tu te casses.
Déjà, voilà. Mais ça prouve qu'il n'a aucun respect pour lui et aucun respect pour la fille, donc vaut mieux partir.
J'en profite pour dire que si le mec il veut pas mettre de préservatif, la femme ou la fille, la jeune fille, a la possibilité d'utiliser son propre préservatif, féminin.
Est-ce que ça
a jamais marché, ça, si?
Oui, avec toi, ça n'a jamais marché.
Dans l'urgence, c'est quand même plus pratique de mettre un préservatif masculin que féminin.
Oui.
Dans l'urgence de l'acte, c'est
Hervé,
quand même plus pratique.
Hervé, t'as déjà mis un préservatif féminin?
Je ne répondrai pas, c'est une question privée, Malère, je ne te pose pas la question.
Ça se voit que non.
Ça se voit que non, vraiment.
Hervé, on va en parler.
L'important est de savoir qu'il y a...
Mais Hervé qui revient de l'île Maurice.
Les préservatifs féminins peuvent être utilisés par toutes sortes de personnes, et hétéro ou homo. Hein.
Moi j'en ai mis. Moi.
Ah.
Tu es ton ami toi?
Une fois, c'est un préservatif, Malheur.
Mais sur la tête
À la piscine, j'avais pas de bonnet. Alors.
Oui, ça tient chaud. Ouais.
C'est pas extensible. Non, en tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a l'alternative d'avoir 2 préservatifs, un masculin, un féminin.
Mais on les trouve toujours, les préservatifs féminins? On peut savoir le prix?
Tu peux passer à l'association, nous en distribuons.
D'accord, je vais passer.
En avant.
Non, mais c'est vrai que pour les jeunes, déjà, c'est beaucoup plus cher, c'est plus difficile à trouver. Le mieux, c'est que, si le mec n'en a pas, si la fille a un préservatif dans son sac, que le mec accepte de le mettre, déjà.
Oui. Est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été faits, docteur Taillant, sur les préservatifs, ou c'est toujours pareil?
Le progrès essentiel, c'est le préservatif féminin, mais à l'époque où on avait essayé avec Hervé et son Altesse de défendre le préservatif féminin, on avait fait une enquête sur les pharmacies de Monaco et il fallait se lever matin pour en trouver. Donc, et même très tôt. Donc le problème il est là. Mais là après, au niveau des préservatifs, c'est pas tellement des progrès au niveau de la qualité des préservatifs, c'est surtout des progrès sur leur utilisation et sur la façon de les mettre, par rapport aux lubrifiants, par rapport aux ruptures, par rapport aux préservatifs qui glissent, par rapport à tout ça. Mais sinon, au niveau des matériaux actuels, il n'y a pas de problème.
Et oui, Hervé. Je précise spécialement pour toi, Malher, nous avons donc une nouvelle série de préservatifs.
Il va me chauffer, lui.
À l'image de notre campagne, dedans il y a 2 étuis. Donc tu ne seras pas surpris. Il y en a un.
Il y en a un vide.
Un pour le préservatif et un autre pour le lubrifiant.
Ah ouais.
Donc il est utile de rajouter du lubrifiant une fois le préservatif posé pour toute pénétration.
D'accord.
Vous auriez pu mettre une clope dedans en plus aussi. Hein.
Non, parce que
c'est ça lui.
Et puis le verre de vin.
Il fume après l'amour lui. Bon, Mélanie, un autre ange gardien. Bonsoir Mélanie, tu vas bien?
Bonsoir. Oui.
Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir?
Je voulais savoir si lundi on se présente au test, est-ce qu'on peut, en étant mineur, être dépisté?
Bien sûr,
ouais. Donc on rappelle,
c'est anonyme.
Dépistage anonyme et gratuit, place Saint-Dévote, lundi, 10h, 18h, c'est ça?
De 10h à 18h30, nous serons sur la place Saint-Dévote et nous dépisterons toute personne qui viendra. C'est anonyme et gratuit. Bon. Nous demandons simplement la date de naissance et c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui aurait 17 ans ne pourrait pas passer le test.
Enfin, il vaut mieux venir tôt parce qu'il y a un risque de rupture de,
quoi
de test. Si jamais il y a une affluence
majeure de stock.
Si jamais il y a 30 000 personnes qui viennent, on ne pourra pas servir tout le monde.
Ça m'étonnerait qu'il y en ait 30 000. Mais enfin bon.
On ne sait pas.
Mais quand même, on peut inciter les gens à venir à plusieurs si t'as peur de venir tout seul.
Oui, bien sûr. Après, on dépistera individuellement, mais c'est bien de venir à plusieurs parce que certaines fois, on est un peu inquiet, on n'ose pas. Et si des copains ou des copines viennent ensemble ou des collègues de travail, c'est bien de venir à plusieurs.
Ok, les amis. Mélanie, une autre question? Oui.
Le test est positif. Est-ce qu'on est directement amené à l'hôpital?
Non, tu vas en prison.
Et tu ne passes pas par la case départ avec la Sûreté nationale.
Non, si le test est positif, d'abord, il faut le contrôler. Parce qu'il peut y avoir exceptionnellement ce qu'on appelle des faux positifs. C'est-à-dire un test qui est positif alors qu'on n'est pas porteur du virus.
Non, mais c'est terrible, ça.
Mais c'est exceptionnel, mais ça peut arriver dans certaines maladies. C'est pour ça que l'interrogatoire avant le test est très important. Pour savoir à qui on a affaire et quelle est la prise de risque. On vient pas juste faire un test. On vient pour avoir une information et à partir de là, de façon librement consentie, on se fait dépister. Et si le test est positif, il faut absolument le contrôler.
Mais tout de suite. Vous le faites tout de suite.
Tout de suite. On a un partenariat avec des laboratoires en ville. On a un partenariat avec le laboratoire au centre hospitalier Princesse Grâce.
Mais oui, mais si tu apprends à quelqu'un, imagine, à 18h, qu'il est positif et que ça ferme après.
Donc on lui apprendra qu'il est potentiellement dépisté.
D'accord.
Voilà. Il n'est pas encore positif. Ouais. Non, mais on joue sur les termes, mais c'est important le terme.
Bien sûr.
Et donc, à partir du moment où il sera confirmé, à ce moment-là, il y aura un libre choix. Soit il voudra se faire suivre à l'hôpital de Monaco, et ça, c'est tout à fait possible. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent travailler sur la principauté, mais qui sont d'origine de Nice ou des communes limitrophes. Ils pourront très bien aller se faire suivre à Nice ou ailleurs. Nous, on donnera une information. On n'amènera pas de force les gens à l'hôpital, c'est évident.
Non, mais de toutes les manières, il faut un test, une prise de sang de confirmation.
Toujours.
Bruno a parlé d'interrogatoire, ça c'est le médecin qui parle, c'est un dialogue qui se fait avant le test de dépistage pour pouvoir discuter sur les risques éventuellement pris et comment se passe le dépistage.
Oui Eric, mon petit Eric s'il te plaît, Eric.
Merci Malher. Oui, juste pour revenir sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on peut avoir peur de faire le test.
Bien sûr, même si tu n'as rien fait, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Parmi les gens qui vont refuser, c'est à peu près quand même un tiers des patients à qui on propose le test et dans les expériences que nous on a, un tiers des patients refusent et parmi le tiers des patients qui refusent, ils refusent parce qu'ils ont peur du résultat.
Et beaucoup ne viennent pas chercher le résultat.
L'avantage ici, c'est que nous donnons le résultat dans les quelques minutes et du coup, il y a beaucoup moins de pertes. Donc l'importance par rapport à la question de Mélanie, c'est que les personnes, nous allons les inciter, leur proposer d'aller après voir leur médecin, plutôt un service spécialisé, mais éventuellement leur médecin généraliste, pour tout de suite être pris en charge.
Bon, t'es rassurée Mélanie, ça va ou tu... T'as les jetons.
Ça va.
Nous accueillons Corinne et Fabienne qui ont fait un stage de dépistage. C'est ça, mon cher Hervé?
Plus une formation.
Une formation plutôt.
Dans le cadre de cette journée du 26 novembre, juste pour recontextualiser un petit peu les choses et ce déploiement de testing de city, donc des tests rapides, gratuits, dans les rues de la Principauté, place Saint-Dévote.
Place Saint-Dévote,
le 26 novembre.
De 10h.
À partir de 10h jusqu'à 18h30, venez tous nous retrouver. Donc Fabienne et Corinne font partie de l'équipe des bénévoles de Fighters Monaco. Les bénévoles, j'en profite pour les remercier, pour dire que grâce aux bénévoles dynamiques...
On peut les applaudir.
Parce qu'ils nous consacrent beaucoup de temps, que ce soit eux, l'équipe d'accompagnement, que les autres bénévoles, un peu plus jeunes que Corinne et Fabienne. Mais
comment tu leur parles?
Ils nous maltraitent.
Et pourtant, ils adorent les femmes.
Les plus jeunes qui viennent nous aider aussi sur des activités particulières, sur les événements.
Je ne crois pas, autre.
Je sais que tu reviens de l'île Maurice, Hervé, et j'ai une photo de toi, là.
Nous sommes à la radio, donc c'est très bien.
Donc, je vous le dis, c'est les futurs Miss Monde qui ont été en stage là-bas.
Miss France.
En même temps que toi, c'est quand même bizarre.
On revient dans un instant sur l'île Maurice. Juste une question à votre attention. Les bénévoles, alors déjà, pourquoi cet engagement bénévole au sein de l'association?
Répondez, Corinne.
Ça mérite une longue réponse, donc on va pas la faire là, un engagement personnel, moi, qui me tient à cœur depuis donc 8 ans maintenant que Fighted existe. Et c'est super de donner et de recevoir beaucoup avec les affiliés qu'on accompagne depuis 8 ans.
Comment vous avez connu, appris l'engagement de la princesse Stéphanie?
Moi, c'est complètement par hasard. Et toi, Fabienne ?
Et moi, c'est parce que je travaille à l'hôpital de Monaco, oui, et que j'avais un partenariat dans le service dont j'étais responsable avec Hervé Eschbach pour suivre certains patients qui avaient cette maladie. Et quand l'association a démarré, on s'est tout simplement embarqué avec lui dans cette belle aventure.
Cette formation que vous avez faite donc justement pour dépister les personnes qui le souhaiteront, hein, ce lundi, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous étiez déjà sensibilisé à ce genre d'exercice ? Parce que voilà.
On n'était pas sensibilisé du tout à ce genre d'exercice. On a appris la technique pratique donc du piquage.
Oui.
Bon, c'est pas tellement compliqué, ça ouais. va assez vite, c'est facile.
Tu piques quoi ? Quel doigt ?
Le majeur.
Le majeur ?
Oui, le majeur. Et on presse un tout petit peu, il y a trois gouttes de sang qui sortent, on prélève le sang et on fait une petite manipulation chimique. Ça, c'est vraiment le plus
manipulation
simple.
Manipulation chimique, c'est quoi ton...
Ben, on met des petits réactifs et le test réagit et
comme
on a un
experts.
Point ou deux points.
Et le patient, il regarde les réactions chimiques, il regarde son truc, non ? Comment ça bouge et tout ?
Ça sera selon son choix. Ça se va très très vite, en fait, le résultat est...
Immédiat, hein ?
Oui, assez, ouais. quasi immédiat. Et le plus difficile, après, c'est justement l'annonce. Si, malheureusement, il y a des annonces positives...
Qui annonce ? C'est toi ou...
C'est la personne,
c'est la personne qui
l'épice. C'est la personne qui l'épice. C'est-à-dire que l'avantage de ceci, c'est ce que voulait la princesse, c'est que là, ouais. nous sommes dans un milieu autre que le milieu de soins. Donc, les personnes qui sont formées, le contact s'établit avec la personne qui veut se faire dépister et elle est suivie du début à la fin par cette même personne.
Alors, Corinne, est-ce que tu as suivi un autre stage pour annoncer à la personne ?
De par mon engagement à la FAITES, on a beaucoup de formations, d'accompagnement et d'écoute et de parole avec des gens. Et là, on a eu quand même une petite formation pour être prête, mais est-on vraiment prêt
Parce que la formation est à la fois médicale et psychologique, justement. Oui. Est-ce qu'on appréhende quand on fait ce genre d'exercice ?
Bien évidemment, ouais. j'appréhende. En même temps, on s'est entraîné un petit peu entre nous, dans l'équipe. Et c'était quand même assez chargé d'émotions parce que même entre nous, c'était pas évident aussi.
En fait, on a pratiqué le test les uns sur les autres et même ceux qui pensaient ne pas avoir eu de conduite à risque, donc qui logiquement auraient dû être zen et serein lorsqu'ils attendaient le résultat, ils étaient quand même un peu tremblotants. Il y a toujours une crainte parce qu'on ne sait jamais finalement si on a été complètement nickel dans sa vie, si on n'a pas déraillé quelquefois ou sans se l'avouer vraiment. Et là, c'est vrai que même en se connaissant et en étant en situation de confiance, c'était parfois un petit peu difficile.
Oui, Hervé, ça, il y a toujours ce petit stress, évidemment.
Bien entendu, le fait de se poser la question de refaire un test re-questionne le passé. Donc, est-ce que je me suis bien protégé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Même si on sait qu'on n'a pas pris de risque, le test, c'est « et si ?». Alors, ce qui est drôle à l'association, c'est que nous, bien entendu, nous sommes exercés, comme Fabienne l'a dit, lors de la formation. Mais quand quelqu'un vient à l'association, par exemple les conseillers qui passent pour donner des coups de main, nous les piquons. Madame Barca, par exemple, cet après-midi...
Tu l'as piquée ?
Elle n'a pas eu le choix.
Ah, c'est pour ça qu'elle est allongée dans...
Ce n'est pas moi qui l'ai piquée.
Christine, t'inquiète pas, c'est bon.
C'est moi qui l'ai piquée.
Et donc, comme ça, elle va pouvoir témoigner aussi. Et elle pourrait dire, là, micro, d'ailleurs, comme c'est facile et finalement, ça ne fait pas
bon,
mal.
Bon, parallèlement à la place à des votes, on va piquer aussi au CHPG. Hein.
Oui, alors, Eric. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura deux sites au CHPG. Le site qui est dédié au prélèvement pour le dépistage, le centre de dépistage anonyme et gratuit, qui ce jour-là participera à cette belle opération.
Oui.
Et les urgences, où finalement, l'approche est un peu différente et on va proposer à des gens qui viennent pour autre chose le dépistage, en sachant qu'une fois encore qu'un certain nombre refuseront le dépistage, mais ce n'est pas grave, au moins ils ont eu une approche différente et ils se seront confrontés en tout cas à cette réalité qu'il faut se dépister et qu'il faut avoir le courage d'y penser. Le chemin faisant, en fait, on sait qu'un certain nombre de ces patients qui n'ont pas été dépistés initialement, eh bien, feront la démarche dans un second temps.
De votre côté, juste Yann-Éric Lassens, quels sont les mots peut-être d'apaisement ou de mise en condition que vous prononcez à l'égard des personnes qui pourraient avoir justement cette appréhension, ce stress, pré-test ?
C'est une question très compliquée là encore que vous posez. Et comme le disait très bien Hervé, le stress, le patient là, c'est un vrai courage. Un peu d'humour. C'est un vrai courage du fait des patients hein, de se dépister. C'est une action volontaire, courageuse, mais responsable. Et je crois qu'il faut bien encourager les patients à effectivement avoir cette attitude courageuse et responsable.
Bon ben voilà, Tano, tu voulais te faire dépister, toi. Tu attends lundi,
Ouais, non, mais moi je fais vraiment attention.
Mais t'as un doute ou quoi ? Ou t'as la peur ?
Non, non, j'ai toujours un préservatif sur moi.
Ouais.
D'ailleurs, ça gratte.
Oui,
ça gratte beaucoup.
Ouais, bah change-le, hein.
Alors,
non, mais je fais attention, moi, même torché à 4h du mat.
Oui, oui,
puis j'ai toujours mis des préservatifs.
Tu le mets avant, oui.
Sauf une fois, mais c'était avec un labrador, j'ai pas.
Non, non. Oh. Mais t'as fait ton test.
Non, mais me donnez pas de micro.
Ouais, ouais, ouais.
Je pense qu'il faut que Zaza soit vigilante ce soir à 4h du matin, qu'elle.
Ouais, surtout
qu'elle propose le.
Ouais. Tano, tu fais partie du FLMMMCC, c'est quoi?
Le FLMMMCC, c'est un sketch que j'avais fait ici à Monaco, j'avais créé ici. C'est le Front de Libération Monégasque, des Monégasques qui en ont plein le cucu.
Ah bon?
En fait, c'est des terroristes monégasques.
D'accord.
Il faut aller le voir sur YouTube.
Sur YouTube, ouais.
Ils ont de belles cagoules.
Dis donc, t'as fait un sketch sur les Corses aussi.
Il y a un sketch.
Et tu dis entre autres, faut éviter d'aller prendre l'essence là-bas, surtout du samplon, c'est ça?
Ouais, voilà. Non, ça c'est pas ma vanne, heureusement.
Ouais, d'accord. autre chose. Non, c'est la mienne. Hein.
Non, il y a un sketch. Non,
mais moi, je suis un ancien comique, Tano. Ouais, ouais. T'es connu pourquoi? On t'a vu à la télévision partout,
ouais,
non?
Sur France 2, chez Patrick Sabatier, chez Sébastien.
Ah, ça,
Sébastien.
C'est pas une bonne nouvelle, ça.
C'était Patrick. Le sketch, c'était la pute de luxe, ça s'appelle. Donc vous tapez Tano pute de luxe sur Internet, il y a des trucs qui ressortent.
Il y a des numéros de téléphone.
Il y a des numéros, il y a tout ce qui va avec, le lubrifiant.
On va lui
donner un carton de préservatif.
Voilà.
Ah ouais, à l'aise.
Bon, pour revenir au sida, t'habites dans le Marais, ça fait beaucoup la bringue là-bas, je suppose, le soir.
J'habite dans le Marais, ouais.
Bon, on peut lire, c'est le quartier gay de Paris.
Ouais, c'est vrai que c'est assez chaud et c'est vrai qu'en matière de prévention, d'après ce que j'entends, parce que mon coiffeur, enfin je sais pas si c'est un coiffeur ou une coiffeuse, j'ai pas osé lui demander, mais non, véridique, mais je pense que c'est plutôt un coiffeur.
Ouais. Demande-lui son test.
Il me dit, je lui demande son test,
ouais.
Et il me dit que c'est assez chaud, ça a la réputation, il y a des boîtes où ils se protègent pas. D'ailleurs, il y a
boîtes où ils se protègent pas, tu dis ça?
Ouais, enfin, il y a des endroits, des soirées. Enfin, il y a, je sais pas, mais il y a un nom pour ça. Il y a certains homosexuels qui font l'amour sans préservatif et qui ont le sida. Et, je sais pas, il y a un nom, enfin, je sais
c'est
pas.
Le barbecue.
Le? Comment?
Le barbecue.
Voilà. Le barbecue?
Oui.
C'est-à-dire, ils ont le sida tous les deux, mais ils mettent.
C'est-à-dire que ce sont des personnes qui annoncent à l'avance, ils ne se protégeront pas, donc séropo ou séronégatif. Il y en a qui disent, je suis séropo.
Donc ils se surcontaminent.
C'est un choix qui leur appartient. Il y a effectivement des personnes qui s'annoncent en disant, je suis séropositif et je ne me protège pas.
D'accord.
Donc, après, c'est la responsabilité de l'autre d'accepter ou de ne pas accepter.
D'ailleurs, à ce sujet, il y a eu une polémique sur. J'ai lu ça dans Le Monde sur justement, ils testaient une pilule. Comprend et qui protège les gens du.
Le Truvada.
Du sida.
Ah.
C'est une pilule qui n'est pas mise en vente en France encore. Ouais. Ils ont dû l'acheter sur Internet.
Ça
a fait polémique justement parce qu'ils testaient ça sur des gens
ils
qui
le
ont
le test.
Enfin, ils vont en parler mieux.
Ouais, Bruno.
Moi, j'ai arrêté d'exercer, c'est pour ça que je vais laisser la parole à mon confrère.
Alors, merci, cher collègue.
De rien.
Le problème, c'est qu'il commence à y avoir une déviance de ce Truvada, c'est-à-dire qu'en France, il y a énormément maintenant d'homosexuels ou autres, à Paris et ailleurs, qui se présentent aux urgences dans le cadre d'un accident post-exposition. C'est-à-dire qu'ils allèguent avoir eu un rapport à risque. Et donc, à ce moment-là, l'urgentiste, dans ce contexte-là, leur prescrit ce fameux Truvada, plus une autre molécule qui s'appelle
le Truvada, c'est une trithérapie, c'est comme une trithérapie.
C'est une bithérapie, c'est deux médicaments.
D'accord.
Qui, si c'est bien pris, c'est vrai, protège de la contamination jusque dans 90% des cas.
C'est comme la pilule pour les filles.
C'est la pilule du lendemain, mais avant. Voilà.
D'accord.
Mais c'est débile comme principe parce que d'abord, ça protège pas contre les autres infections sexuellement transmissibles et toutes les autres infections sexuellement transmissibles augmentent le risque de contamination par le sida. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, comme vous l'avez dit fort justement, dans certains milieux homosexuels, notamment dans certains endroits parisiens, il y a presque un homosexuel sur quatre qui est séropositif. Donc il y a des gens qui vont être déjà séropositifs, qui ne se seront pas dépistés, qui vont prendre ce fameux Truvada, qui va induire, on en parlait tout à l'heure avec Anne-Éry, des résistances. Et ensuite, c'est un médicament qui est potentiellement toxique. Si on le prend une fois, deux fois, trois fois, ça va. Mais si on le prend au long cours, ça peut être potentiellement toxique pour les reins et pour les os notamment.
Et c'est secondaire.
Et c'est pour ça qu'il y a une étude qui a démarré en France qui s'appelle Hypergay, qui fait polémique, où effectivement, on teste ce traitement uniquement avant le rapport sexuel. Si on le prend pas en continu, on le prend juste avant le rapport sexuel.
D'accord. Ouais, mais c'est moins cher un préservatif.
Mais exactement.
Il vaut mieux prendre un Dafalgan, finalement.
Mais bien sûr.
Dafalgan et un préservatif.
T'habites un beau quartier, Tano. C'est bien, là-bas. Hein.
Ouais, c'est joli.
Non, mais
c'est joli.
Sincèrement, je rappelle, la prévalence moyenne des séropositifs dans le monde, c'est 0,8%.
dans le Marais, dans certains endroits du Marais, c'est 25%.
Ouais, j'ai lu ça. Ouais.
Donc, on peut faire des émissions, faire des machins, dire en France, on est un pays développé, machin, truc chouette, ouais. Mais c'est une catastrophe. Un homosexuel sur quatre, je dis bien dans certains endroits, la moyenne des homosexuels en France, c'est 1%. Hein. Ouais. Faut pas généraliser. Mais dans certains lieux de vie parisiens, c'est 25%. Donc, avoir un rapport sexuel non protégé dans ces milieux-là, c'est encore pire que...
Il joue la roulette russe.
C'est vraiment la roulette russe.
Radio Monaco et Fight Heads présentent Jungle Fight.
Bonsoir les amis, bonsoir. Nous sommes en direct de la brasserie de Monaco pour ce Jungle Fight absolument exceptionnel à une semaine de la journée mondiale de lutte contre le sida. Ce sera le 1er décembre, bien sûr. Et nous sommes avec toute l'équipe de Fight Heads Monaco réunie à la brasserie avec, bien sûr, la princesse Stéphanie. Ouais. Il est avec nous au téléphone, il s'appelle Francis Cassassa, consul de Monaco en Afrique du Sud, secrétaire général de l'AMAD. Salut mon cher Francis.
Bonsoir, bonsoir Malher, bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe de Fight Heads et mes respects à la princesse Stéphanie.
Bonsoir Francis, comment allez-vous?
Bonsoir, très très bien, je vous remercie.
Il est en direct de l'Afrique du Sud, de Cape Town, c'est ça?
Il est une heure plus tard.
Une heure plus tard, oui, tu devrais te coucher, Francis, tard, déjà.
Francis est aussi secrétaire général de l'AMAD mondial, et l'AMAD mondial est partenaire avec nous. Tout à l'heure, nous avons évoqué le Burundi, et l'AMAD mondial est partenaire avec nous et le gouvernement princier pour soutenir l'AMAD Burundi.
L'association mondiale des amis de l'enfance, créée par la princesse Grace.
Tout à fait.
C'est ça.
Magnifique programme au Burundi avec Fatet et le gouvernement princier. On a des résultats extraordinaires là-bas, vraiment.
Alors, on a Francis au micro parce que Francis est actuellement en plein travail pour nous, pour un déplacement proche.
Avec la princesse Stéphanie, vous partez là-bas, c'est ça?
Oui.
Oui, oui, oui. Vous partez en Afrique du Sud début décembre, c'est ça?
Je pars, oui, en mission aussi pour l'ONU SIDA en tant que ambassadrice de bonne volonté, représentante, voilà. Donc voilà, on part à Cape Town, en Afrique du Sud, où je vais avoir l'occasion de rencontrer des ondes toutou et de voir plein d'autres choses. D'autres ONG là-bas qui combattent le SIDA. Enfin, Francis nous prépare, nous concocte une bonne petite visite sur deux jours. Donc, c'est bien.
Tu peux peut-être nous en dire quelques mots, Francis?
Alors, nous sommes en pleine préparation, effectivement. Donc, le premier jour, on arrivera à Cape Town. Elle aura donc l'occasion de rencontrer, en fait, Desmond Tutu, qui est une personne que tout le monde ne présente plus, hein, prix Nobel de la paix, et quelqu'un qui a lutté énormément à l'époque de l'apartheid, mais toujours aujourd'hui, et surtout par rapport à toutes les problématiques du SIDA aujourd'hui, dans les camps de chute notamment. Donc, il y aura des visites vraiment intéressantes, je crois, pour Fight Aid. Une fois de plus, hein, les chiffres, vous les connaissez mieux que moi, mais l'Afrique du Sud est un des pays les plus infectés, en fait, hein, au niveau du VIH. Donc, on va rencontrer, en fait, des ONG qui luttent contre le VIH et qui sont vraiment intéressantes.
Je suppose que la venue de la princesse Stéphanie est toujours un événement là-bas, aussi bien pour les associations, mais aussi, pour le coup, pour les personnalités.
Oui, absolument, tout à fait. Donc, c'est un événement. Vous savez, je pense que... Alors, c'est pas tous les jours qu'on a les princes de Monaco qui viennent en Afrique du Sud, donc c'est un événement extraordinaire. En même temps, c'est toujours un encouragement. Sa princesse est venue il y a quelques années à Johannesburg. Il y avait vraiment un encouragement extraordinaire. Dans quelques jours, c'était dans le Western Cape, au niveau de Cape Town, et là, ça va aussi donner beaucoup d'espoir parce que ils vont se rendre compte que la problématique du sida n'est pas une affaire uniquement sud-africaine. Elle est panafricaine, c'est vrai, elle est mondiale, et qu'il y a des personnes en Europe qui s'en occupent.
Les visites, je précise, les visites que j'entreprends pour l'ONU SIDA, et je veux toujours que ça soit comme ça, c'est vraiment des visites de terrain. Je passe pas mon temps à aller voir les officiels, à voir des membres du gouvernement, ni rien. Je vais vraiment sur le terrain voir les gens dans les townships, les personnes malades dans leur petite maison en tôle ondulée de 3 mètres carrés sous 46 degrés au soleil. Je pense que c'est ça qui est important, c'est d'aller vers ces gens-là, montrer que même si on est à des milliers de kilomètres, on pense à eux et on les soutient et on est là pour eux, pour se battre pour eux. Et donc après, en voyant qu'on va vers ces petites ONG qui travaillent sur le terrain dans les townships pour les femmes vivant avec le VIH et les enfants, en leur donnant un repas chaud par jour et des choses comme ça, voyant qu'une personne comme moi va carrément dans ces bidonvilles, après, justement, c'est ce que disait Michel, c'est après les gouvernements, ça enclenche tout un autre processus que si on va directement leur parler à eux.
C'est un peu stérile, quoi.
Après ma première visite à Johannesburg dans les townships, il paraît qu'ils se sont déplacés, les gens du gouvernement, dans les mêmes townships pour aller voir la situation parce que moi j'y avais été. Tandis que si j'avais été les voir eux directement, ils auraient toujours oublié les townships. Donc c'est pour ça que les missions qu'on fait, c'est vraiment du terrain. Et c'est ça un peu, c'est mettre le projecteur sur ces gens qui souffrent sous le nez justement des politiques et des gouvernements.
Et c'est aussi un message fort pour les personnes qui sont mal informées sur le VIH et qui ont peur de côtoyer des personnes vivant avec le VIH, de voir que la princesse côtoie ces personnes et les personnes dans les plus mauvaises conditions. C'est aussi un message fort de solidarité et de dire il n'y a pas de risque.
Ah bah oui, je suis même rentrée dans une maison où il y avait une triple infection, tuberculose, sida et hépatite.
Comme chez Tano, pareil.
Et une autre femme qui m'avait dit, elle était, je sais pas, elle avait 26 ans, elle était sous respirateur. Elle avait ses trois enfants à côté d'elle, tout petits. Et je suis rentrée dans sa maison, j'ai pris le temps de parler avec elle et elle m'a dit j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est le jour de ma naissance. Et maintenant j'ai envie de me battre parce que vous êtes venu jusqu'ici passer du temps avec moi. Donc voilà, tous les jours on se bat pour le sida, mais des moments comme ça, bah, ça donne une raison au combat et envie de continuer encore plus.
Même s'il y a des personnes qui accompagnent bien entendu, qui font partie de la délégation, la princesse est toute seule dans la case. Quand elle rencontre les personnes, c'est seule avec elle. Surtout en Afrique du Sud, c'est facile puisque c'est en anglais.
Et puis en plus, il n'y a pas de place pour
En
tout
plus,
le monde.
Il n'y a pas de place.
En général, c'est vraiment...
Il n'y a pas de délégation.
Mais,
quoi.
Non, on peut pas. Nous restons à l'extérieur.
Je pense que personne ne peut imaginer les endroits qu'on a traversés. Oui. On m'avait parlé des townships, j'avais pu voir les photos, mais on peut pas décemment vivant ici imaginer l'état dans lequel vivent ces personnes. Et dans une dignité et avec une humilité, c'est incroyable. Ils se plaignent pas, c'est leur vie, c'est leur quotidien. Et voilà, c'est juste ça inspire le respect et de se dire que qu'on a énormément de chance, donc il faut un jour ou l'autre redonner un petit peu de cette chance quand même.
Francis peut-être juste nous dire un mot sur une action que la princesse va visiter qui est soutenue par la direction de la coopération internationale de Monaco et que Francis, en tant que consul, tu suis aussi.
Tout à fait. Donc à côté en fait des ONG, et comme disait la princesse tout à l'heure, ce qui est important c'est les visites de terrain, c'est comment les gens se battent au quotidien et dans des conditions qui sont vraiment terribles. Donc, c'est très important. À côté donc de la pratique donc du VIH, la princesse va visiter également des crèches sociales qui sont financées depuis des années, depuis 2005 maintenant, par le gouvernement princier. Donc des crèches sociales dans les townships qui aident en fait des mères qui travaillent et qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans des crèches municipales. Donc Monaco finance dans les townships des crèches pour ses enfants avec les meilleurs standards, les standards des écoles privées. Et donc c'est extraordinaire.
Ces crèches où il y a aussi des enfants nés avec le VIH, bien entendu.
Non, mais c'est vrai, comme je l'ai entendu dans la tente sur le bateau, on n'imagine pas ce qu'on peut voir ici. On n'imagine pas. Donc, c'est vrai que ce n'est pas tout benoîtement amener des enfants, mais il y a des enfants qui sont également atteints par le VIH.
Ok, mon cher Francis, je te remercie beaucoup d'être intervenu dans Juggle Fight.
Merci, Francis. Merci. Et à bientôt.
Merci à vous.
Eh bien, tu t'occupes bien d'eux. Hein. Ils arrivent début décembre. Hein. Merci, Francis.
À très bientôt. Merci à vous.
Ciao, ciao, on peut l'applaudir. Hein. Oui. À côté de nous, les amis, toujours, les anges gardiens, il y a Jade qui vient de nous rejoindre avec Julie. Jade et Julie. Salut Jade, tu vas bien ?
Oui, et vous ?
Ouais. Est-ce que tu vas sortir ce soir pour porter la bonne parole dans les boîtes ?
Oui.
Ouais. Mais t'as quel âge, Jade ?
18.
18, donc c'est bon, tu veux. Hein ? T'as pas besoin d'autorisation des parents ni rien ? D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir, Jade ?
Bah, moi, j'ai vu sur YouTube un spot de prévention sida avec Omar Sy. Et je trouve ça bien que ce soit des artistes comme lui qui participent à la prévention du sida. Et c'est pourquoi je trouve ça bien que Tano soit présent ce soir, parce que c'est comme si c'était notre Omar Sy à nous.
Oh là, merci, merci.
Oh là là,
je vais mettre un peu de cirage sur la tronche. Par exemple, si tu me croises ce soir à 4h du mat, complètement bourré, qu'est-ce que tu vas dire quoi pour me...
Mais est-ce que t'es à jeun déjà de temps en temps, oui ?
Si, si, bah là.
Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Ah ouais, tiens, par exemple, Jade, tu croises...
Là, tu me ramasses par terre, et moi je te vois avec tes ailes, je fais « Hey, Cupidon !» Et comme ça, tu vas dire quoi ?
Je sais pas.
Ah, ouais, c'est, bah non, bah arrêtons, fais ton boulot, et
bah,
Jade...
Déjà, je lui ferai souffler un éthylotest.
Ouais, bah là, il y a du boulot. Hein.
Souffler, mais non, mais il faut puis, me mettre un gros seau d'eau sur la tronche, ou un truc comme ça. T'as un seau d'eau avec toi, généralement ?
Non.
Non, t'as pas de seau d'eau ?
Je me balade sans seau d'eau.
Bon, bah tu te finis à coup de pompe, alors. Bon alors, tu lui donnes
tu
quand
lui
même...
donnes des préservatifs aussi.
Voilà, oui. Préservatifs.
Non mais je suis bourré.
Et je lui paye le bus pour qu'il rentre chez lui ou un taxi.
C'est vrai que s'il est complètement bourré, il y a peu de probabilités pour qu'une femme accepte.
Voilà, exactement. Ouais.
Je le raccompagne.
Dis donc Jade, t'es souvent sortie dans les boîtes très très tard ou très tôt le matin ?
Non.
T'as jamais fait ça encore, non ?
Je viens d'avoir 18 ans.
Tu viens d'avoir 18 ans. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre,
hein? Au nom des anges gardiens, je voulais remercier aussi la princesse qui se dévoue bien dans cette lutte et que son soutien avec nous, c'est sympa.
Merci à vous, les anges gardiens.
Julie, ta question, Julie. Oui. Autre ange gardien. Gardienne, oui. Gardien. Ouais.
Gardienne.
Ouais, comme vois. Tu veux, ouais.
Alors, j'ai lu qu'un homme avait été condamné pour avoir transmis le virus à sa partenaire alors qu'il était au courant. Et j'aurais aimé savoir si il n'était pas au courant qu'il avait ce virus, il aurait quand même été condamné ou pas.
C'est tout le risque de la criminalisation, enfin, de cette condamnation. Quand une personne connaît son statut et sciemment trompe son partenaire ou sa partenaire en lui disant qu'il n'est pas séropositif,
bien entendu, tu tombes sous le coup de la loi.
Il est condamnable, on tombe sous le coup de la loi. Donc, après, une personne qui ne connaît pas son statut sérologique, comment prouver ? C'est toute la difficulté, c'est-à-dire que s'il le fait sciemment, là, il trompe son partenaire, c'est-à-dire s'il dit à son ou sa partenaire « je ne suis pas séropositif » alors qu'il sait qu'il l'est, il tombe sous le coup de la loi, il doit être condamné. Par contre, si une personne dit « moi, je ne veux pas mettre le préservatif » et l'autre est séropositif et lui dit « je suis séropositif », il ne va pas être condamné. Et la problématique de l'épidémie aujourd'hui, c'est pour ça que nous faisons ce dépistage massif, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont séropositives. Et inconsciemment, elles peuvent ne pas se protéger et dire à l'autre « je n'ai pas pris de risque » alors qu'elle en a pris et qu'elle est séropositive et qu'elle ne le sait pas, elle va contaminer. Que faire avec ça? On ne va pas pouvoir la condamner puisqu'elle ne le savait pas. Et le risque de la criminalisation, enfin en tout cas de la condamnation, l'effet pervers de cela inciterait les personnes à ne pas se faire dépister puisque si elle ne le sait pas, elle ne sera pas condamnée.
Ouais.
Le message fort, c'est d'utiliser le préservatif quand on ne connaît pas son statut sérologique ou celui de son ou de sa partenaire.
Voilà, Julia.
Après, c'est toujours au cas par cas parce qu'il y a eu cette histoire en Belgique quand même où il y a un homme qui a sciemment contaminé 14 mineurs.
On est bien d'accord.
Parce que voilà, il voulait se venger que lui avait été contaminé. Donc là, je pense.
Il tombe sous le coup de la loi.
Oui, mais c'est très bien. Il a été condamné pour ça. Donc après, c'est au cas par cas.
Mais la dernière.
Et dans des cas comme ça, c'est important que ça soit condamnable.
Ah, bien entendu. Le dernier cas dont tu parles, je pense que c'est le cas de cet homme qui sciemment a dit à deux de ses partenaires, il était avec une femme, il a eu une autre partenaire en même temps. Aux deux, il a dit qu'il n'était pas séropositif. Et du coup, les femmes lui ont fait confiance et elles ont été contaminées. Donc, alors qu'ils le savaient. Donc là, c'est normal qu'ils soient condamnés.
D'où l'importance du test.
Ben évidemment.
D'où l'importance du test.
Et de ne pas mentir.
Et c'est là où ça renvoie à la question de la confiance. Et on revient à cette question du test de dépistage qui, forcément, quand on passe le test, ça réinterroge et ça re-questionne. Et que je pense que pour tous les couples, quand un couple se constitue, il serait bon que tous les deux passent le test. Et comme ça, mutuellement, après, s'il y a la confiance et si les deux sont séronégatifs, il n'y a plus de risque qu'il y ait de contamination.
Stéphane, bonsoir Stéphane Maire.
Bonjour, bonsoir à tous.
Stéphane, qu'est-ce que tu fais? On t'attend à la brasserie. Qu'est-ce que tu fais? T'es où?
Je suis à Paris, mais mon cœur est avec vous à la brasserie de Monaco.
Oh, la princesse t'écoute, Stéphane.
Ça va, Stéphane?
Oui, bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer, comme chaque année, eh bien, à cette émission, parce que vous savez combien je soutiens Fighters, et je pense que c'est important qu'on soit tous mobilisés, ou que nous soyons, soit en direct de la terrasse de Monaco, ou depuis Paris, où je suis, et où je pense à vous.
Dis-moi, Stéphane, est-ce que tu te souviens l'année dernière? Tu avais dit, les mentalités changent pas tellement au sida, ça n'évolue pas. Est-ce que tu penses que là, ça bouge un peu ou c'est toujours pareil?
J'ai le sentiment, je regarde attentivement les chiffres de contamination, j'essaie de voir si les comportements changent. J'ai le sentiment, en tout cas, que quelque chose, qu'il y a peut-être une prise de conscience. En tout cas, les parents ont pris les choses en main, les jeunes aussi. Il faut arrêter toujours de les stigmatiser parce que les pauvres, ils n'arrêtent pas d'entendre parler du sida, des infections, etc. Donc, j'ai le sentiment, en tout cas, vu les chiffres, que quand même, il y a une prise de conscience générale. Maintenant, moi, je suis pour qu'il y ait on n'en fait jamais assez. Donc il faut continuer à délivrer le message, ne jamais arrêter. Le 1er décembre est une journée importante, mais je profite aussi de cette action. J'essaye de chaque fois que l'occasion m'est donnée, eh bien, de dire combien c'est important de se protéger et de protéger les autres.
Mais j'allais dire oui, effectivement, que le message est toujours important à faire passer parce que les chiffres que Michel nous rappelait tout à l'heure, Michel Sidibé, il y a un message d'espoir. Mais en France, on voit bien que nous sommes toujours à peu près à 6500 contaminations par an.
Toujours.
Donc il y a toujours
déclaré.
Oui, déclaré, ouais.
Déclaré, c'est-à-dire que les personnes qui se font dépister. Donc ça veut dire qu'on a quand même toujours cette difficulté-là, et on se rend compte que les populations ciblées, que sont les travailleurs du sexe, les personnes qui s'injectent des drogues, des hommes ayant des rapports sexuels avec les autres hommes, le message est plus difficile à faire passer.
Ça fait plus de 20 ans maintenant. C'est vrai que je comprends qu'il y ait une sorte d'érosion comme ça. Avant, il y a eu un choc psychologique. Maintenant, on a le sentiment à tort que les médicaments vont tout faire, que la trithérapie... Enfin, moi j'essaie d'aller dans les hôpitaux, de voir aussi comment on vit avec le sida. C'est une vie très difficile, c'est vraiment des contraintes, les médicaments peuvent provoquer vraiment des rejets, c'est une vie difficile. Donc franchement, il ne faut pas penser que le vaccin est pour demain, il ne faut pas penser que les médicaments permettent de vivre bien avec le sida. Oui, on vit, mais on ne vit pas bien, donc il faut vraiment se protéger, et protéger les autres aussi. C'est une question de responsabilité qu'on a vis-à-vis des autres.
Stéphane, vous qui êtes dans le Gotha parisien et dans les soirées mondaines et autres.
Ah.
Est-ce que dans ce milieu-là, là, on parle de VIH, on parle de préservatifs, on parle de ces choses-là ?
En quelques années, je passe de moins en moins de temps dans les soirées où on perd son temps et on prend du poids qu'à essayer de défendre les causes qui me sont chères, c'est-à-dire de participer à des soirées où justement on peut marteler un message d'espoir, mais en même temps un message de prise de conscience, de responsabilisation de chaque individu. C'est pas ce que les autres peuvent faire pour moi, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Je suis un citoyen comme un autre, c'est pas parce que ça passe pas par moi que ça ne me touche pas, même si on ne connaît personne atteint de cette maladie ou séropositif, eh bien, on doit se sentir concerné. Forcément, ça peut nous arriver, ça peut arriver à quelqu'un de proche. Voilà. Moi, je me sens solidaire, en tout cas, et je sais que je dois lui donner un coup de chapeau, parce que, vous savez, c'est le travail de la princesse Stéphanie aussi, qui avait fait Fight Aids Monaco, m'a sans doute, pour m'en avoir parlé, m'a alerté le plus. Je trouve qu'elle a un message clair, elle sait en parler, avec tout le travail qu'elle fait avec ONU SIDA, moi, m'impressionne, parce que elle arrive à faire passer le message auprès de toutes les générations par son engagement, son dévouement, et elle est un modèle pour moi.
Oh,
Bruno, oh, dis donc, et Bruno, je voulais juste rebondir, non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Bern, mais le rapport de l'ONU SIDA, il faut l'interpréter, c'est-à-dire que le nombre de nouvelles contaminations a baissé de 20% en 2 ans et de 50% en 10 ans, mais c'est en Afrique. Chez nous, c'est une catastrophe. Chez nous, le nombre de nouvelles contaminations continue à augmenter. Chez nous, les populations hétérosexuelles et homosexuelles sont à risque. Et donc, il faut faire attention à ce rapport. Ça diminue en Afrique, parce que les Africains ont su se mobiliser. Les Africains n'ont pas su faire ce qu'on ne sait pas faire en France et ce qu'on ne sait pas faire en Europe. Donc le problème,
ouais,
il est
fait,
là.
Ouais.
Il ne faut pas banaliser. En France, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe, Stéphane.
Il faut vraiment le dire et le marteler. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que les chiffres sont trompeurs. Chez nous, il y a ce qu'on appelle le relapse, c'est-à-dire les gens ont baissé la garde. Les gens disent, ça fait 25 ans que vous nous rabâchez. On passe pour des vieux cons aussi, à toujours rabâcher le message. Eh bien, oui, il faut le faire. Il faut peut-être trouver d'autres méthodes pour en parler. Peut-être reprendre parfois tout à zéro. Mais vous avez raison, il faut surtout rien lâcher dans les pays européens et particulièrement en France.
Oui, dis-moi Stéphane, on a Tano qui est humoriste, qui est avec nous, il a une question à te poser.
Monsieur Gérald Dahan, vous imitez très très mal Stéphane Bern. C'est tout ce que j'ai à dire.
Bon Stéphane, si un jour t'as besoin d'un chroniqueur, on a quelqu'un pour toi à RTL ou à la télé.
Très bien. Eh ben, volontiers pour des essais, sans problème.
Oui. En plus, il connaît tout le monde, il habite dans le Marais. Bon, il a plein de contacts.
J'ai des préservatifs.
Bon, s'il a des préservatifs, moi, je crois que le message est passé parce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps à la télévision que j'avais toujours un préservatif sur moi. Si ce n'était pas pour mon usage personnel immédiat, il y a toujours des gens qui peuvent en avoir besoin. Je crois que c'est important des gens qui sont comme ça, un peu ou prou dans la lumière, disent en permanence, eh bien, attention, protégez-vous, protégez les autres.
Merci, on va te
dire. Stéphane, venez à Monaco, on a des préservatifs. On vous
Il y a tout, ce qu'il faut. Il y a des belles filles et des beaux mecs aussi, Stéphane.
Il y a les couleurs de Monaco qui sont mes couleurs préférées, rouge et blanc.
Oui, il y a un drapeau dessus.
Oui, voilà.
Sans rouge et blanc.
C'était Stéphane Bern. Merci, mon cher Stéphane. On peut l'applaudir. Bonne soirée et et à bientôt, mon cher Stéphane. Merci beaucoup.
À bientôt, merci à tous.
Ciao, ciao. Avec nous, Cynthia et Fabien, les anges gardiens encore.
Bonsoir,
Fabien.
Bonsoir.
Bonsoir, petit ange gardien. Bon, dis-moi, est-ce que tu es de sortie pour la prévention ce soir pour donner des bons conseils ?
Affirmatif.
D'accord. Tu es déjà sorti plusieurs fois ?
Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà fait des émissions aussi l'année dernière.
Est-ce que tu as vu des choses ? Qu'est-ce que tu vois quand tu vas dans les, tu te balades dans les bars, dans les clubs à 3-4 heures du matin ?
Ben, je vois surtout des gens qui sont mal informés sur le sida, surtout, et des gens qui font pas très attention à se protéger.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire, ils boivent et ils rencontrent des gens, pas forcément sans savoir qui c'est, ni rien. Et ils rentrent chez, ils font leurs affaires, la foi, comme des êtres humains, mais bon. C'est juste que les gens mal informés, je pense.
T'es bien reçu quand même quand tu arrives avec tes petits ailes et tout.
Ouais, bien sûr. Sympa. Bien sûr. Pourquoi je serais mal reçu?
Ouais.
On véhicule un bon message, donc je vois pas pourquoi on serait mal reçu.
Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre, mon Fabien?
Non, c'est pas tant savoir. C'est juste que là, après, à la fin de l'émission, on a fait un questionnaire pour voir si les gens sont bien informés sur le sida.
Ouais.
Et je les ai posés aussi à mes potes.
Ouais.
Et en fait, je me suis rendu compte que même mes potes, donc des gens de mon âge, sont aussi mal informés sur le sida, en fait. Par exemple, à la question « Que faire en cas de prise de risque sur le sida ?», la réponse unanime, ça a été la pilule du lendemain.
Aïe, d'accord. C'est ce qu'on avait dit.
Pour dire, mais c'est ce que je dis toujours. Pour dire à ce point. On va être obligé de transformer les messages de prévention du sida vers des messages de prévention de contraception, en fait. Parce que les jeunes ont beaucoup plus peur de mettre enceinte une fille ou pour une fille d'être enceinte que de attraper le sida ou une autre maladie sexuellement transmissible ou l'hépatite B. Et c'est ça qui est étonnant, mais du moment qu'ils se protègent parce que et ils ont peur de tomber enceinte, ben c'est déjà ils se protègent. Mais s'il faut, on va axer les messages par là. Mais c'est quand même fou que ça fasse plus peur que le reste, quoi.
Pour les gens de notre âge, la protection, par exemple le préservatif, ça sert pour une chose dans les esprits, juste pour ne pas avoir d'enfant.
Ouais, le sida, on n'en parle jamais.
Mais non, les autres maladies sexuellement transmissibles.
N'en parle jamais non plus.
Non, jamais.
Voilà,
j'ai vu. C'est important de passer le message, Fabien, d'utiliser non seulement le préservatif, mais aussi de prendre la pilule.
Ou bien
en tout cas, un moyen de contraception.
Oui, c'est un moyen, mais c'est pas le seul et c'est pas le premier, je pense.
Les deux sont à prendre.
Oui, les deux sont à prendre, bien sûr.
Et j'ai vu que tu avais un piercing sur la langue, ça fait partie de la prévention.
Non,
c'est Thanos,
ça. Voilà. Ça fait partie des conneries de jeunesse, ma foi.
Bon, d'accord. T'en as fait
des
conneries.
C'est pas la même chose.
C'est important de savoir où, justement, on peut faire les piercings. Parce que là aussi, ça n'est pas forcément le VIH, c'est beaucoup plus les risques liés aux hépatites. Mais il est important de le faire dans des lieux où les conditions d'hygiène sont sûres.
Ah oui, moi, mon piercing, je l'ai fait dans quelque chose sûr. Je me suis d'abord assuré avant de le faire.
En Afghanistan?
Non. Oui, voilà, en Afghanistan.
Merci, mon cher Fabien. On a la merveilleuse Cynthia. Alors là, c'est la star des anges.
Avant toute chose, la tenue militaire, voilà, on est tous là réunis ce soir pour combattre pour la lutte contre le sida. Alors moi, j'ai parlé.
T'es tout en kaki.
Ah ouais, le tri et tout là, c'est bon, ce soir je bombarde, c'est bon.
La guerre au sida, ouais.
Voilà, une guerre au sida.
Et tu as aussi un piercing sur la langue.
Eh oui.
Ça fait ouais, comme quoi.
Réellement du truc.
Non, c'est un coquin le Tano là, qui est avec nous depuis un moment. Hein.
Et repère, hein.
Oui, Cynthia, t'occupe pas.
Moi, en fait, je vais vous lire un article. Et il y aura une question derrière.
D'accord.
Donc, la haute autorité de santé donne une définition spécifique dans le glossaire de son rapport sur le dépistage de l'infection à VIH en France. Un test de dépistage rapide correspond à un test unitaire, à lecture subjective, de réalisation simple et conçu pour donner un résultat dans un délai court, moins de 30 minutes généralement, lorsqu'il est pratiqué auprès du patient. Il peut être réalisé sur sang total.
Tu veux revenir demain ou quoi? C'est bon, c'est
plasma.
Bon,
écoute, c'est important là. Plasma ou sérum en fonction de l'allée matrice revendiquée par le fabricant de son produit. Il permet la détection des anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2.
Oui.
Alors, moi, j'ai été choquée par le fait que la salive soit un révélateur du VIH alors qu'elle ne fait pas partie des liquides contaminants. S'il vous plaît, monsieur Taillon.
Oui. Non, monsieur Taillon, s'il vous plaît.
Malheur va répondre parce qu'il connaît très bien. Non, ce que je disais.
T'as fini, oui.
Et le roi du casque.
Ce que je disais hors antenne, en fait, il ne faut pas confondre. Ce qu'on recherche, c'est des anticorps. Et donc, il y a des anticorps qui passent dans la salive, comme on a des anticorps dans le lait maternel, comme on a des anticorps dans le sang, comme on a des anticorps dans les sécrétions génitales. Mais les anticorps ne sont pas contaminants. Les anticorps ne sont que le signe qu'on a été contaminé. Donc, la salive reste un liquide biologique qui n'est pas contaminant. La salive est sûr et certain. La salive est un liquide biologique sur lequel on peut faire le diagnostic d'infection. Et ce qu'on cherche, c'est d'avoir des tests rapides qui soient de plus en plus simples et de plus en plus efficaces. Parce que les gens, ça les embête qu'on leur pique le bout du doigt parce que ça fait mal, ils ont peur. Sur la salive, ça sera sûrement plus simple. Et l'avenir aux tests rapides est effectivement de développer des tests rapides qui vont détecter le sida, mais qui vont également détecter toutes les autres infections sexuellement transmissibles, dont l'hépatite C. Il y a beaucoup plus de gens en France qui sont porteurs de l'hépatite C qui l'ignorent que de gens qui sont porteurs du virus du sida et qui l'ignorent.
C'est un peu difficile quand même de bien comprendre, parce que si dans la salive, il y a des anticorps qui disent que tu es porteur, c'est ça, hein,
tu as
été contaminé, dans la logique, les jeunes, hein, bêtes et jeunes...
Non, eh ben, on peut être jeune et pas bête. Hein.
Non, je ne vais pas créer de polémique, attention, hein, mais j'ai eu un peu peur, quoi. C'est juste, il y a des échanges de salive, voilà.
N'ayez pas peur, continuez à faire des bisous, ça n'est pas contaminant.
Bon, alors Malène, tu vas pouvoir galocher ce soir.
Mais ouais, mais tu sais que je trouve personne, Cynthia, t'es dégueulasse. Arrête de dire ça à tout le monde.
Je ne me porte pas volontaire, hein. Je distribue les préservatifs.
Allez, ange gardien, mais bon, ça va quand même.
Galocher. Je vais galocher, t'as raison.
Fais pas semblant de t'évanouir pour qu'elle te fasse la réanimation. Hein.
Ah oui, tiens, c'est pas mal, j'avais pas pensé.
Non, là, on appelle les pompiers, c'est moins drôle.
Non, avec leur gros tuyau. Cynthia, reste avec nous. Il y a Myriam qui vient de nous rejoindre, qui est ange gardien aussi. Salut Myriam.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu veux savoir?
Alors, moi, je me demandais si, lorsqu'on est déjà atteint par une autre IST, comme la syphilis ou les chlamydia, est-ce que ça accroît le risque de transmission du VIH?
Est-ce que le terrain est favorable pour le VIH? Le fait qu'on ait déjà
formellement, oui.
Oui.
Toutes les infections sexuellement transmissibles accroît le risque du VIH et encore la syphilis, mais des infections banales comme l'herpès, comme les chlamydiés, comme les condylomes. Donc c'est pour ça qu'il faut se protéger. Il y a 300 fois plus dans le monde d'infections sexuellement transmissibles que de contamination par le VIH.
C'est beaucoup plus contagieux.
Ça veut dire que quasiment toutes les infections sexuellement transmissibles sont beaucoup plus contagieuses que l'infection par le VIH, mais c'est vrai qu'elles favorisent l'infection par le VIH. Donc il faut se protéger et se traiter quand on est atteint d'une infection sexuellement transmissible.
Je me demandais s'il y avait une qualité par rapport aux préservatifs. Est-ce que Durex, c'est de meilleure qualité que Aspelia ou...
En général, tous les préservatifs sont bons, non?
Spécialiste en préservatifs.
Préservatifs. On demande Hervé à la caisse numéro 2, s'il vous plaît.
Que conseilles-tu comme préservatif?
Ouais.
Alors, les préservatifs...
T'en mets deux, toi, hein.
Non, c'est comme pour tout produit. Moi, je recommande de choisir...
Pour en mettre deux, lui, parce que...
Il vaut mieux essayer différents.
C'est un étalon, Hervé. Vous
tu me laisses répondre, oui, Malène.
Oui, vas-y, mon chéri.
C'est d'essayer différents types de modèles, différentes marques. Je n'en citerai pas ici pour ne pas faire de pub. Pour justement trouver celui qui est le mieux adapté. Après, il y a différentes tailles, il y a différents pas de texture parce que c'est les mêmes, mais plus ou moins lubrifiés. Et trouver souvent celui qui correspond le mieux à l'anatomie du mec.
Ce qu'il faut vérifier pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, c'est qu'il soit homologué.
Qu'il est la norme NF.
La norme NF.
Et surtout, ne pas utiliser des préservatifs qu'on achète sur les marchés ou sur Internet ou dans les sex shops.
Mais quand même, tu confirmes avec moi que les préservatifs les plus chers sont les plus confortables, les plus faciles.
Pas forcément, ça. Non. Nous, nos préservatifs qui sont gratuits, on les distribue, ils sont très confortables.
D'accord. C'est fabriqué par qui, tu peux nous dire, non?
Bon. Ce sont des préservatifs.
Fabriqués à la main.
Préservatifs résilles.
Avec des barésilles.
Alors, tous ces préservatifs qui sont justement humoristiques et que l'on trouve dans les sex shops ne protègent pas. Ce sont des jeux sexuels, c'est pour s'amuser.
Voilà.
Mais ça ne protège ni des infections sexuellement transmissibles, ni du VIH.
Même les aromatisés
Non, les aromatisés, ils protègent et ils peuvent être utiles pour certaines pratiques.
Mais ouais, bien sûr, mon cher Hervé. Alors, attention, Tano, tu vas bientôt nous laisser. T'es descendu nous voir spécialement de Paris. Humoriste monégasque qui est né à Marseille.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Ouais, j'ai grandi ici toute.
Ouais, tu connais tout le monde
toute
là.
Ma vie, ouais, pratiquement.
Ouais. T'as appris quelque chose là en écoutant deux heures sur le SIDA?
Ouais. J'ai appris plein de trucs. Ouais.
Tu vas faire le test vite fait maintenant, t'as les choses.
Je vais y aller, je devais le faire en plus.
Bon, bah ça tombe bien.
Je suis sûr de pas l'avoir parce que j'ai eu une hernie discale il y a pas longtemps et j'ai été opéré, donc je pense qu'ils ont fait des tests pour m'opérer.
Non. Si tu le demandes pas.
Il faut qu'il soit demandé par le patient ou le médecin doit proposer au patient de faire le test, mais ils ne le font pas.
font pas sans demander au patient.
Ah, je croyais qu'on t'obligeait, toi, à faire le test du sida pendant. Ah ouais.
Quand on tu peux refaire, ouais.
Bon, tu vois, tu peux te refaire.
Moi, j'ai accepté, mais je me souviens que j'ai accepté, donc ils ont dû le faire.
T'as accepté.
Comme depuis, j'ai couché avec à peu près 3512 filles.
D'accord.
Il va falloir que je fasse quand même le test.
Il faut lui donner un carton en partant de préservatif.
Il y en a 500.
Ouais, t'as un camion.
Une palette.
Maman, maman.
T'as un camion qui t'attend. Il y a une palette à la sortie.
Une palette.
Bon, dites-moi, les amis, on rappelle Test in the City lundi. Oui. Place Sainte-Dévote, dépistage anonyme gratuit et rapide. Vous avez la réponse tout de suite, d'accord ?
Déploiement à 13h. Et une chose aussi, oui. Parce qu'on va bientôt finir là.
Tu parles d'opération courte pointe après.
Le c'est déploiement à 13h, courte pointe.
Hein. Et toujours Place Sainte-Dévote.
Oui, et il y est important quand même de dire, parce que nous sommes à la brasserie ce soir, c'est pas pour rien non plus, c'est parce qu'il y a une soirée qui est organisée par la brasserie au bénéfice de Fighters Monaco. Donc venez nombreux ce soir à la brasserie
dès maintenant.
Pour faire la fête. Vous rencontrerez les anges gardiens, vous aurez des préservatifs,
stars,
des informations utiles.
Cynthia est là, je vous accueillera.
Et vous soutiendrez Fighters Monaco avec la brasserie de Monaco.
Cynthia, est-ce que tu as déjà été mal reçue ?
Non.
Quand tu as fait des noms ?
Eh non, hein. Tu viens avec le sourire, t'es pas mal reçue.
Bon, c'est vrai que t'as raison. Ok les amis,
attends,
je crois...
Attends,
oui.
J'ai un truc. Ouais. Un bon citoyen doit aller voter. Un bon citoyen avec un bon cerveau doit aller se faire dépister. Test in the City, J-3. On vous attend les amis.
Bravo,
Cynthia,
bravo Cynthia. L'émission est finie mes amis. J'espère que vous avez pris les choses, vous allez bien. N'oubliez pas le dépistage. Lundi, place Sainte-Dévote, dès 10h du mat.
Pour vous faire dépister.
Ok, merci les amis, merci Fighted. Et merci à la princesse Stéphanie. Rendez-vous dans un mois, prochaine émission.